Les dessous de l'Infox. Sébastien Duhamel.
Bonjour à tous. C'est l'un des fléaux de notre temps. Les fake news, les fausses nouvelles, elles pullulent partout, sur Internet, sur les réseaux sociaux, parfois même dans les médias. Et c'est l'heure d'en démonter quelques-unes, comme toutes les semaines sur RFI. Les dessous de l'Infox, c'est parti. Tout à l'heure, on recevra Julien Pain, rédacteur en chef et présentateur de l'émission Vrai ou Fake sur France Info TV. Il nous parlera de son travail et notamment d'une grande enquête sur un possible crime de guerre en Ukraine. Mais d'abord, notre chronique, on part à Bruxelles. Bonjour Jean-Pascal Héry.
Bonjour.
Et une fois n'est pas coutume, vous nous parlez aujourd'hui d'un fake conçu pour une bonne cause, un deepfake pour résoudre un crime vieux de 20 ans. C'est la police néerlandaise qui utilise pour la première fois cette technologie de la fausse vidéo pour un appel à témoins. Le visage d'un adolescent tué en 2003 sur un parking de Rotterdam a été placé sur un autre corps. Et c'est donc la victime elle-même, dans une vidéo, qui demande à ceux qui auraient éventuellement des informations à propos du meurtre de se mettre en rapport avec la police, Jean-Pascal.
Oui, car sur la vidéo en question, qui a été diffusée dimanche dernier sur une chaîne néerlandaise, c'est un adolescent comme un autre que l'on voit. Vêtu d'un jogging, sur un terrain de football mal éclairé, ballon sous le bras, le jeune homme avance vers la caméra, au son d'une musique un peu angoissante. Après être passé entre une haie de personnes, des proches, des anciens professeurs et des camarades de foot, Cédar Suarez lâche son ballon et s'adresse directement aux téléspectateurs. « Vous en savez plus, alors parlez maintenant », dit-il. Ensuite, sa silhouette s'efface peu à peu avant de disparaître. Et c'est vraiment troublant, hein, parce que ce garçon, qui semble si vivant devant nous, parle en fait de son propre meurtre. Cédar Suarez a en effet été tué alors qu'il faisait une bataille de boules de neige avec des copains près d'une station de métro de Rotterdam. C'était en 2003. Pendant des années, la police pensait que l'adolescent avait été tué par un automobiliste en colère après avoir reçu des boules de neige. Mais aujourd'hui, elle pense plutôt le meurtre lié à un affrontement entre bandes rivales. L'adolescent aurait été témoin d'un deal de drogue qui aurait dégénéré ou alors victime d'une balle perdue. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. En le faisant revivre, en quelque sorte, si l'on peut dire, la police néerlandaise a voulu jouer la carte de l'émotion pour faire réémerger des souvenirs enfouis afin de relancer une enquête jamais élucidée.
Et concrètement, Jean-Pascal, comment les policiers s'y sont pris pour créer ce deepfake ?
Eh bien, avec l'accord de sa famille, la police a utilisé une photo de l'adolescent prise au Noël précédant sa mort et on a collé ce visage sur un autre corps. Des images et des vidéos ont été analysées par un ordinateur pour recréer les mouvements de la bouche et des yeux. C'est ce qui a permis la création de ce film, certes truqué, mais aussi émouvant et troublant. Alors, cette première mondiale dans le cadre d'un appel à témoins va-t-elle s'avérer efficace ? C'est ce qu'espèrent la police et la famille de Cédar Suarez, pleinement associés au projet. Depuis la diffusion du film, la police néerlandaise indique avoir reçu une dizaine de témoignages, ce qu'elle juge très positif, même si elle n'a pas encore pu vérifier leur véracité ou leur utilité pour le moment. Par ailleurs, une récompense de 4000 euros sera offerte à la personne qui permettra de résoudre l'enquête.
Merci Jean-Pascal Héry, correspondant à Bruxelles. Un fake. Un vrai, cette fois, si on peut dire, avec Alexandre Capron de la rédaction des Observateurs de France 24. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Sébastien.
L'infox que vous avez débusqué est en lien avec une actualité récente. Le 11 mai dernier, la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, a été tuée en Cisjordanie. On en a parlé hein, sur RFI, évidemment. Eh bien, ce jour-là, le 11 mai, vous avez repéré, Alexandre, un compte Twitter un peu particulier.
C'est un compte qui se présentait comme le frère de la journaliste, un certain Mohamed Abu Akleh. Il expliquait être un journaliste musulman basé au Qatar et avait tweeté à plusieurs reprises depuis la mort de celle qu'il présentait comme sa sœur. Des tweets assez surprenants d'ailleurs, par exemple, il affirmait que la maison de sa famille était encerclée par les forces israéliennes, que le pape et Vladimir Poutine l'avaient appelé ou encore que les services de renseignement israéliens lui avaient demandé de témoigner dans les médias pour apaiser la situation. Un profil mythomane, mais qui ne résiste pas à l'épreuve des faits. Shirin Abu Akleh a bien un frère, mais il s'appelle Tariq Antoun Akleh. Et surtout, il ne vit pas au Qatar, mais aux États-Unis. Malgré ces incohérences, le compte avait un peu plus de 38 000 abonnés deux jours après la mort de la journaliste.
Et au-delà de ces erreurs factuelles qui laissent donc penser qu'il s'agit bien d'un imposteur, Alexandre, dites-nous comment vous avez commencé votre enquête sur ce compte ?
Il faut pour ça partir à la recherche des traces numériques, c'est-à-dire les indices laissés par le compte dans le passé. J'ai donc cherché les interactions de ce compte sur Twitter avant le 11 mai, c'est-à-dire avant la mort de la journaliste Shirin Abu Akleh. Et là, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Avant le 11 mai, la totalité des tweets de ce compte avait été supprimée. Lorsqu'un tweet est supprimé, il y a une solution pour le retrouver. Ça s'appelle la Wayback Machine. C'est un site internet qui permet de sauvegarder des pages internet avant qu'elles ne soient supprimées. Et en utilisant cet outil, je me suis rendu compte qu'avant le 11 mai, ce compte Twitter ne s'appelait pas Mohamed Abu Akleh, mais Abdul Wahed Al-Mutairi. Il affirmait être un conseiller technique basé au Koweït et avait pour photo de profil une image de l'ex-émir du Koweït décédé en 2020. Il publiait surtout des messages liés à l'actualité au Koweït et n'hésitait pas déjà à jeter de l'huile sur le feu concernant le conflit israélo-palestinien.
Et ça ne s'arrête pas là, ça va plus loin, Alexandre.
Oui, en effet, on s'est intéressé ensuite au Twitter ID de ce compte, c'est-à-dire à son identifiant numérique. C'est un numéro unique et immuable qui est attaché à n'importe quel compte créé sur Twitter. Même si vous changez de nom sur Twitter, ce numéro ne peut pas être modifié. Eh bien, en cherchant ce numéro, on s'est rendu compte qu'il avait changé au moins 5 fois d'identité depuis février 2022, souvent en surfant sur l'actualité.
Et vous vous êtes finalement aperçu que la dernière fois, c'était même la semaine dernière, c'est bien ça ?
Exactement. Ce compte a changé de nom le 19 mai pour se faire appeler Idriss Gana, arborant une photo du joueur du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye. Il s'est ainsi fait passer pour le compte Twitter arabophone du joueur qui avait refusé le 14 mai dernier de porter un maillot dédié à la lutte contre l'homophobie. Plusieurs de ses tweets en arabe faisaient référence à la religion et relayaient des messages à caractère homophobe, allant même jusqu'à affirmer que les services de renseignement français étaient à ses trousses. Fin mot de l'histoire, ce compte a été suspendu le 22 mai dernier pour avoir enfreint les règles de Twitter. Au final, cette stratégie lui avait permis d'engranger au total 45 000 abonnés en jouant sur la crédulité des utilisateurs. Un exemple qui montre qu'il faut toujours se méfier d'un compte Twitter inconnu qui affirme représenter une personnalité, car son identité peut parfois changer du jour au lendemain.
Eh oui, méfiance. Merci Alexandre. Tous les détails sur cette enquête, c'est à retrouver dans votre article « Comment un compte Twitter a gagné des milliers d'abonnés sur le dos de la journaliste Shirin Abu Akleh ». C'est à lire bien sûr sur le site des observateurs de France 24. Les Dessous de l'Infox, on reçoit à présent notre invité Julien Pain, rédacteur en chef et présentateur de Vrai ou Fake sur France Info TV. Bonjour Julien Pain.
Bonjour.
Une question un peu générale pour débuter, ça peut sembler évident pour beaucoup de monde aujourd'hui, mais ça l'est peut-être pas pour tout le monde encore. C'est indispensable de débusquer les fausses infos pour vous en tant que journaliste aujourd'hui ?
Ah bah, je pense que c'est plus qu'indispensable aujourd'hui. À moins de vivre dans une grotte, on voit bien que sur les réseaux sociaux, partout, et même parfois dans la bouche des hommes et des femmes politiques, les fausses infos, les intox, les fake news, elles circulent en permanence. Et je pense que c'est notre devoir en tant que journaliste de prendre les informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, et d'aller vérifier ce qui est vrai et faux. Parce que je pense que vous le voyez comme moi, autour de vous, il y a de plus en plus de gens qui vous ressortent en permanence des infos qui ont l'air sensationnelles mais qui s'avèrent fausses. Et voilà, ça c'est quelque part c'est l'essence du journalisme de vérifier l'info.
Justement, c'est ce que vous faites toutes les semaines sur votre émission Vrai ou Fake sur France Info TV. Alors on va parler un petit peu justement de chez vous, comment ça fonctionne là derrière, en coulisses un petit peu si on peut dire. Comment vous sélectionnez vos sujets ? Qu'est-ce qui va faire qu'on s'attaque à une fausse info ? Comment vous choisissez tout ça en gros ?
Un premier critère forcément, c'est est-ce que l'information elle circule beaucoup ? Parce que comme on est un média et qu'on a une caisse de résonance importante, si c'est prendre une fausse information qui circule très peu et finalement la mettre comme ça en accès libre au grand public, c'est très dangereux parce que même si on dit qu'elle est fausse, le risque c'est que les gens retiennent que ils en ont parlé à RFI, ils en ont parlé sur France Info, donc quelque part ça leur met dans la tête cette fausse info. Donc on ne traite que des informations qui circulent déjà largement. Et ensuite moi j'ai un autre critère, c'est que je me demande est-ce que de raconter que c'est faux, ça me permet aussi, quelque part, de raconter ce qui est vrai en revanche. Donc, en gros, si par exemple, on parle de le vaccin, n'est pas dangereux pour les femmes enceintes. Bon, alors, on peut parler du vaccin qui n'est pas dangereux pour les femmes enceintes, mais après, moi, ça me permet de dire qu'est-ce que c'est un vaccin ? Comment ça marche ? Pourquoi ça nous aide à vaincre des maladies ? Donc, en fait, je me pose toujours la question, est-ce que ce travail de debunking, de fact-checking, il peut ensuite m'amener à faire comprendre des choses aux gens ? Et à moi-même, parce que souvent quand je travaille sur le sujet, je ne le sais pas avant d'avoir travaillé dessus. Et donc, est-ce que j'ai envie de découvrir ce sujet davantage ?
Il y a une vraie notion de pédagogie, finalement.
Ah, c'est un travail de pédagogie. D'ailleurs, c'est pas un hasard si moi, j'interviens très souvent dans les collèges, les lycées, je viens en soutien des profs, parce que je pense que dans le journalisme, il y a cette idée qu'on fait découvrir le monde. Alors, on fait du reportage, mais on explique le monde aussi, on l'analyse et on le fait mieux comprendre. Voilà, on n'est pas seulement là pour le montrer et démerdez-vous avec, en gros. On est là pour le montrer et aider à l'expliquer.
Chez France Info TV, Vrai ou Fake, c'est une émission dont vous êtes le rédacteur en chef. Vous êtes combien à travailler sur cette émission? Vous avez une vraie équipe avec vous ou alors vous vous occupez vous-même de vos sujets?
Non, c'est une petite équipe. On est 5 journalistes. Puis après, il y a des gens évidemment qui font du montage, de la technique. Vous savez, la télé, ça demande beaucoup de travail derrière, de réalisation. Mais l'équipe journalistique, c'est vraiment 5 personnes.
Demain, vous allez publier samedi une grosse enquête qui nous emmène en Ukraine sur les traces d'un possible crime de guerre qui aurait été commis par des séparatistes pro-russes dans les zones sous contrôle, donc près de Donetsk et Luhansk. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette enquête? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler là-dessus?
Alors, la base de l'enquête, c'est une vidéo. Une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux russes et pro-russes. Et cette vidéo, c'était montrer un crime de guerre potentiel parce que c'est des soldats qui semblaient avoir été exécutés et probablement torturés. Donc cette vidéo, c'est un point de départ. On ne sait rien de cette vidéo, ni où elle a été tournée, ni quand, ni par qui.
Donc d'abord, il faut l'authentifier, j'imagine.
Déjà, la première étape, c'est est-ce qu'elle est authentique? Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'elle raconte? Et donc, on a fait un travail de fourmi en repérant tous les détails qui se cachaient dans cette vidéo, en passant par les insignes sur les vêtements des prisonniers, jusqu'à l'analyse de voix des gens qu'on entendait sur la vidéo, en passant par de la géolocalisation. On a analysé les détails visuels dans cette vidéo. Et voilà, avec ce travail de fourmi, on a fini par remonter le fil complet. Et ce qui est intéressant avec cette enquête, c'est que ça m'est très rarement arrivé de remonter le fil suffisamment pour retrouver l'auteur de la vidéo.
Et comment on fait, alors, d'un point de vue technique, on va dire, pour nos auditeurs, pour identifier tous ces éléments-là dont vous nous avez parlé, des petits éléments, des détails sur les vidéos, remonter jusqu'à un individu précis, comment, d'un point de vue technique, comment on peut procéder?
Alors, je ne peux pas vous raconter toute l'enquête, ça nous a pris 2 mois et demi pour faire cette enquête, donc évidemment que c'est complexe, et c'est un travail qui nous a pris vraiment beaucoup de temps. Ce que je peux dire, par exemple, je peux donner des exemples, c'est qu'on a réussi à localiser la scène. Alors, localiser, c'est parce qu'on a analysé dans l'image toutes les structures de bâtiments. Et donc, ces structures de bâtiments, il fallait retrouver où elles étaient, et ensuite, avec l'aide d'images satellites, on a réussi à faire matcher d'un côté cette structure de bâtiment, par exemple un arbre, une allée, une porte qui est reconnaissable. Et ensuite, on a essayé de les retrouver sur des images satellites, ces mêmes bâtiments. Et on a fini par retrouver le lieu précis, très précis, où ça avait été filmé. Et ensuite, il y a de l'analyse pour savoir à quelle saison, quand ça a été filmé. Donc, on a regardé la neige, est-ce qu'il y avait plus ou moins de neige qu'à d'autres moments sur les images satellites. Et ce qu'il y a de particulier dans cette enquête-là, que moi, personnellement, je n'avais jamais fait, qui est très rare, c'est qu'on avait un problème, c'est que la personne qui filmait la vidéo, on ne la voyait jamais. Or, on avait un nom qui nous semblait être la personne qui filmait, mais on n'en était pas sûr. Et pour être sûr que cette personne qu'on avait identifiée était bien la personne dont on entendait la voix, on a été obligé de faire une analyse de voix. Donc ça, il faut passer par des logiciels qui sont des logiciels spécialisés et de faire travailler des équipes techniques spécialisées qui vont vous dire si oui, techniquement, ils peuvent assurer que cette voix est la même. Et on est passé par 2 entreprises qui ont abouti à la même conclusion, c'est que cette voix était quasiment identique à celle qu'on cherchait.
Une enquête à retrouver donc dès demain samedi sur France Info TV dans Vrai ou Fake. Julien Pin, vous nous parlez justement de cet épisode, ce possible crime de guerre en Ukraine. À l'occasion de ce conflit lancé par la Russie, vous avez pu constater peut-être une recrudescence des fake news?
Alors, les fake news, je veux dire, on a été plutôt servi ces dernières années parce qu'on est passé d'une crise des gilets jaunes à une pandémie qui a été un grand déclencheur de fake news. Et puis là, effectivement, on travaille plutôt sur l'international et on est revenu à travailler sur le conflit ukrainien. Mais je veux dire, on était quand même dans une période où les fake news étaient très présentes. Et d'ailleurs, si on regarde qui transmet ces fake news, on s'aperçoit que c'est souvent des personnes qui se sont reconverties. Ils se sont reconverties d'épidémiologistes spécialistes en virologie. Et tout d'un coup, c'est devenu des spécialistes en conflit ukrainien, avec toujours le même parti pris, c'est qu'ils disent l'inverse des autres. C'est-à-dire que si on dit « Ah, il y a une invasion de l'Ukraine » et que, bah, en termes de droit international, quand même, c'est l'Ukraine qui est la victime, eux vont forcément inverser et dire « Non, non, les arguments russes sont légitimes et ils ont le droit d'envahir l'Ukraine. » Et ensuite, ils vont justifier toutes les atrocités qui sont faites sur place. Donc, je ne dirais pas qu'il y a plus de fake news qu'avant. Simplement, aujourd'hui, effectivement, ces fake news, ces intox, elles se concentrent sur le conflit ukrainien.
Et vous avez pu, peut-être dans votre travail de veille, est-ce que c'est possible de quantifier d'où viennent ces fake news? Est-ce que ce sera peut-être plus du côté pro-russe? Est-ce qu'on peut le constater également dans le camp ukrainien?
Alors, les guerres, c'est toujours compliqué. Donc forcément, il y a des fausses informations qui sont circulées par le camp ukrainien. L'Ukraine fait de la propagande. La différence entre la propagande et le journalisme, c'est que la propagande a un but politique, sert un but politique, et que la vérité, finalement, est secondaire. Donc, forcément, en temps de guerre, un État comme l'Ukraine va, nous aussi, nous ressortir des fausses infos. Je pourrais vous donner des exemples, mais en gros, ils vont monter en épingle un héros qui n'existe pas. Ils avaient parlé d'un chasseur, donc d'un pilote de chasse ukrainien, le héros de Kiev, le fantôme de Kiev. Bon, ça, c'est une histoire qui est une belle histoire, mais qui n'existe pas. Donc, quelque part, c'est une fake news. Mais je pense qu'il ne faut pas renvoyer dos à dos la propagande ukrainienne, où il y a effectivement des erreurs, des intox, etc. Et il y en aura de plus en plus. Il faudra être vigilant. Mais avec la politique de propagande russe, où là, le Kremlin est sur une désinformation massive, une désinformation organisée, calculée. Parce que le but du Kremlin, c'est effectivement de nier toute exaction qu'ils auraient faite. Et ensuite, c'est de donner tout un tas de faux arguments et de fausses enquêtes et de faux contre-arguments qui, en fait, vont noyer le poisson. C'est-à-dire que les preuves de crimes de guerre, ils s'accumulent. On a fait des enquêtes, mais il y a d'autres personnes qui vont faire des enquêtes. Il y a la CPI, la Cour pénale internationale qui va faire des enquêtes. Donc, ils vont être quelque part acculés. Ils ont commis des crimes de guerre. Et leur technique, c'est de noyer ça, tout un flot de fausses informations en nous disant que, mais non, c'est une bombe que les Ukrainiens ont tirée eux-mêmes, mais non, cette histoire de femme violée, c'est faux. Et c'est leur stratégie pour que finalement, un peu, on noie le poisson. Mais ça ne va pas, voilà. Je pense que des enquêtes aboutissent, la nôtre a abouti, il y en a d'autres qui vont aboutir. Et en tout cas, côté occidental, les informations, maintenant, elles sont avérées. On sait ce qui se passe. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire très attention à ce que nous racontent les Ukrainiens, parce que ça reste, côté ukrainien, de la propagande.
Et quand vous démontez ces fausses informations, peu importe la provenance d'ailleurs, est-ce que vous vous intéressez également au retour du public? Est-ce que vous savez quel effet vos enquêtes, quel effet votre travail produit sur le public? Est-ce que ça suffit à démonter certaines idées qui peuvent se répandre aujourd'hui, comme on le constate?
Voilà, si je vous disais que notre travail suffit à vaincre les fake news et à faire changer d'avis des gens, je mentirais. Évidemment que ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que les gens qui sont extrêmement convaincus de quelque chose, ce n'est pas parce qu'ils ont vu notre fact-checking, qu'ils ont vu notre sujet télé, qu'ils vont tout d'un coup, par miracle, changer d'avis. Non, ça, j'y crois pas, évidemment. En même temps, il faut bien faire quelque chose. Et je pense que ce qu'on essaye, nous, c'est d'établir une marque, vrai ou fake, où simplement on établit les faits sans rentrer dans l'opinion, jamais. Donc on essaye vraiment d'établir les faits, de dire « il s'est passé ça ». Que ça arrange les Français, les Ukrainiens, les Russes, on s'en fiche, on établit les faits. Et j'espère qu'à force de montrer qu'on a un travail qui est non positionné, on essaye vraiment de travailler sur la réalité, les faits, eh ben on essaie de se poser un peu comme marque un peu indépendante et en qui n'importe qui, qu'on soit pro-russe, anti-russe, qu'on soit pro-vaccin, anti-vaccin, finissent par avoir confiance. Alors forcément, c'est plus compliqué que ce que je leur raconte. Et je doute pas qu'il y a des gens qui voient vrai ou fake comme des menteurs, qui me voient comme un menteur, etc. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est ne prendre personne de haut, n'être jamais dans l'insulte, jamais dans le mépris, simplement prendre les arguments un par un, les analyser, donner des réponses. Après, chacun se fait son propre avis.
Et pour se faire son propre avis, j'invite tous nos auditeurs, bien évidemment, à se rendre sur le site de franceinfotv.fr. Là-bas, vous pourrez constater toutes les enquêtes, tout le travail fait par l'émission Vrai ou Fake. Julien Pain, merci beaucoup d'avoir été notre invité.
C'est moi qui vous remercie.
Les Dessous de l'Infox, c'est déjà fini pour cette semaine. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet ou sur nos applications mobiles. Merci à Hélène Avril qui a réalisé cette émission. Merci à vous d'être fidèle à la Radio du Monde. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, gare aux fausses nouvelles.